Bonsoir, bienvenue à l'Opéra Comique, bienvenue à la 1611e représentation de L'Acmé dans les murs. Je suis ravie de faire cette présentation en compagnie de Cécile Becker, qui est responsable de la programmation au musée Guimet et spécialiste de l'art indien, et à qui je donnerai la parole dans une dizaine de minutes pour avoir son décryptage d'indianiste sur le livret de L'Acmé et les éléments de la dramaturgie. Donc j'ai 10 minutes pour vous présenter l'œuvre du point de vue de l'Opéra Comique. On remonte une nouvelle production de L'Acmé 8 ans après la précédente, dirigée par François-Xavier Roth en 2014, qui avait permis à Sabine Devielle de faire ses débuts en L'Acmé. Et c'est un ouvrage qui est difficile à programmer, c'est dommage parce que sinon on le programmerait tous les ans, mais qui est difficile à programmer parce qu'il repose entièrement sur les épaules de la soprano qui doit avoir des capacités vocales exceptionnelles et aussi un vrai talent d'actrice et aussi l'âge du rôle, et ça fait beaucoup de paramètres, si bien que cette œuvre qui a été mondialement connue et jouée partout, elle est aujourd'hui un peu rare et que grâce à Sabine Devielle, on peut la remettre à l'honneur et qu'à chaque fois qu'on monte un spectacle à l'Opéra Comique, on en fait largement profiter les théâtres partenaires. On a choisi cette année, 2022, de vous proposer non pas la version opéra qu'on avait donnée en 2014, mais la version opéra comique, c'est-à-dire la première version, la version de la création. Il y a eu en effet en 1883 une proposition de Léo Delibes qui était très forte, mais qu'il a transformé l'été suivant, vu le succès énorme qu'obtenait l'œuvre, il a transformé son opéra comique en opéra, c'est-à-dire qu'il a composé des récitatifs pour remplacer tous les dialogues parlés, afin de diffuser l'œuvre dans les théâtres qui n'avaient pas l'habitude de donner des opéras comiques. Et voilà, on a le choix entre deux versions. En 2014, avec François-Xavier Roth, on a fait la version opéra, et cette année, Raphaël Pichon et Laurent Pelly, à la mise en scène, tenaient beaucoup à faire la version opéra comique. À mon avis, ils ont raison, et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, en 1882, Léo Delibes était un compositeur vraiment au fait de sa carrière et de sa notoriété, très apprécié de l'opéra comique qui avait réussi à l'attraper, à l'attirer, parce que Léo Delibes avait eu une première carrière dans l'opérette, et puis qu'ensuite il avait pendant pas mal d'années travaillé à l'opéra, pour l'opéra de Paris, surtout sur tout ce qui était musique de ballet, et vous savez qu'on donne encore le répertoire chorégraphique de Léo Delibes. Et à partir du moment où il a mis un pied à l'opéra comique, ici, on ne l'a plus lâché. Mais le premier projet qu'il avait pour la maison en 1882 était un projet sur un sujet français. Voilà, il était question de faire un opéra comique sur le personnage de Jacques Callot. Simplement, la troupe de l'opéra comique venait d'inviter une jeune soprano américaine qui s'appelait Marie Van Zandt et qui avait cette voix de soprano coloratour incroyable. Elle était ravissante, elle était merveilleuse en scène. Et il fallait la garder dans les murs parce qu'elle avait déjà fait pas mal de concerts en Europe et tout le monde la voulait. Donc l'opéra comique, pour garder la jeune Marie Van Zandt dans la troupe une année supplémentaire, a dit à Léo Delibes et à ses librettistes qui étaient déjà en train de travailler sur leur projet, vous arrêtez tout et vous trouvez quelque chose qui mette en valeur Marie Van Zandt. Et c'est alors que les librettistes de Léo Delibes, il avait trois librettistes sur cette affaire, lui ont dit, on vient de lire un roman de Pierre Loti qui est formidable, il était sorti 2 ans plus tôt, Le mariage de Loti, l'histoire d'amour entre un officier français et une vaïnée dans le Pacifique, ça pourrait faire un joli sujet. Et là, probablement, le directeur de l'opéra comique a dit, attention messieurs, c'est un peu sensible, raconter une histoire d'amour entre un colon, en tout cas un officier, et une indigène, dans l'empire colonial français, on va forcément avoir des problèmes. Donc, merci de déplacer l'action dans un autre empire colonial. Et hop, on saute en Inde. Et là, les librettistes, jamais à court de ressources, disent, ah bah ça tombe bien, il y a des récits de Théodore Pavy qui sont drôlement bien, qui ont été publiés à la fin des années 1840, qui racontent l'Inde de façon très réaliste, avec des personnages formidables, des couleurs, etc. On va prendre l'un des récits qui s'appelle « Les babouches du Brahman » et on va prélever dans ce récit des situations un peu tendues et puis un personnage de Brahman vindicatif qui sera très approprié pour semer le trouble dans notre histoire d'amour. Parce qu'une histoire d'amour, c'est une soprano, un ténor, mais il faut forcément un rôle pour le baryton basse. Donc le baryton basse est emprunté à Théodore Pavy et voilà, il concocte le livret de L'Acmé, l'histoire d'amour entre l'officier anglais et la belle indienne, fille d'un brahman, donc forcément la situation est tendue. Et ils ont l'audace de situer cela dans les Indes britanniques contemporaines, et ça c'est très nouveau à l'opéra comique. En général, il y avait toujours un décalage non seulement géographique mais aussi historique. On ne représentait pas des histoires comme celle-là dans un univers contemporain. Là, c'est strictement contemporain, ça se passe sous le règne de la reine Victoria en Inde. Et alors, Léo Delip s'est dit, je vais faire des recherches musicales. Mais ne croyez pas qu'il ait fait des recherches du côté de la musique indienne. Pas du tout. C'était totalement inconnu à Paris. Alors, vous nous direz si on avait quand même des ressources éventuellement pour appréhender la musique indienne. Mais en tout cas, Léo Delip et sa génération ne connaissaient rien à la musique indienne. Pensaient que 8 ans plus tôt, Bizet, pour composer Carmen, pour cette même maison, avait été allé s'installer à Bougival. Il n'avait pas fait le voyage en Espagne. Ça, c'est presque la génération suivante, c'est Chabrier qui ira en Espagne. Mais, donc, on ne se renseignait pas tellement. Et Léo Delibes, en revanche, a dit « Moi, je veux des informations sur les musiques militaires anglaises. » Donc, ce que vous entendrez d'anglais dans cette partition, c'est vous entendrez des fifres. Ça, c'est vraiment très fidèle aux musiques militaires anglaises jouées en Inde. Mais pour ce qui est de la musique indienne, vous n'en aurez pas l'écho. Léo Delibes, au contraire, a considéré que c'était l'occasion d'ouvrir la boîte à rêves et de composer une musique de l'ailleurs sans se mettre de contraintes. Alors l'été 1882, il l'a partagé entre la composition de l'Acmé et puis des voyages quand même. Il est allé à Bayreuth assister à la création de Parsifal. Et puis ensuite, il a poussé jusqu'à Constantinople pour orchestrer l'Acmé. Vous voyez, donc un petit effort quand même de voyageur, mais il n'est pas allé plus loin que Constantinople. Et il savait de toute façon qu'il aurait affaire à l'orchestre de l'opéra comique, où il était hors de question d'introduire des instruments exotiques. Nous, on a la chance, parce qu'avec avec Pygmalion, l'ensemble de Raphaël Pichon, notre directeur musical, qui est à la fois un chœur et un orchestre, on a des artistes qui jouent sur instruments d'époque. Donc vous allez entendre dans la fosse les instruments tels que ceux dont disposait Léo Delibes en 1883. Vous verrez en particulier qu'on a un pupitre de corps naturel, parce que les artistes de l'orchestre Pygmalion, en analysant la partition, se sont rendus compte qu'on avait joué la partition sur des corps naturels et pas sur des corps à piston. Pourtant assez tardif dans le siècle. Mais voilà, vous allez avoir le bonheur d'entendre cette musique dans cet écrin, dans l'écrin qui a le même volume et la même acoustique à peu près que la deuxième salle Favart qui a vu la création de l'Acmé. Elle a brûlé malheureusement 4 ans après la création de l'Acmé, mais on a le même volume de salle. Et avant de conclure, je voudrais vous signaler un phénomène qui est très intéressant dans cette œuvre, qui est la décision de Léo Delibes d'adopter deux langages musicaux différents pour les deux univers culturels qui se rencontrent. On a des Anglais qui, traditionnellement, dans le répertoire lyrique français, enfin surtout dans l'opéra comique, parce que c'est la fonction de l'opéra comique de représenter les sociétés, les conditions sociales. Donc traditionnellement, dans le répertoire d'opéra comique en France, les Anglais sont toujours des personnages horriblement matérialistes, d'un snobisme et d'un orgueil à toute épreuve, totalement fermés à ce qui les entoure, pas poètes pour un sou, et dépourvus de toute intelligence spirituelle. C'est comme ça. Les Anglais, c'est comme ça dans la culture française. Et donc, à ces Anglais, Léo Delibes donne le langage de l'opéra comique. Je m'explique. L'opéra comique, c'est traditionnellement l'alternance du parler et du chanter. Et donc, dans tout ce qui est chanté, ce sont des numéros musicaux clos, très circonscrits, très caractéristiques. Mais ce langage, cette forme de l'opéra comique, n'était plus obligatoire à l'opéra comique depuis le début des années 1860. Napoléon III avait dit, allez, liberté des théâtres, on lâche tout, si l'opéra veut programmer des opéras comiques, il a le droit, si l'opéra comique veut programmer des opéras ou des opérettes, il a le droit, vous pouvez faire du ballet partout. Voilà, ça faisait partie des grandes réformes libérales de Napoléon III. Donc ça faisait une vingtaine d'années que l'opéra comique pouvait donner autre chose que de l'opéra comique. Mais Léo Delibes s'est dit, le langage de l'opéra comique qui apparaît maintenant un peu ancien, moi, il m'intéresse parce que je vais m'en servir pour décrire le côté très prosaïque des Anglais, très brutal. Et donc, tout ce qui est parlé, vous allez voir combien les scènes parlées sont fortes et sont intrusives, quoi. Quand le parler arrive, on est choqué parce qu'on quitte l'univers de rêve des Indiens pour entrer dans cette trivialité de cette civilisation moderne qui arrive sur un territoire de rêve. Et aux Indiens, il réserve un autre langage musical qui est celui qu'on appelait à l'époque le drame lyrique. Non seulement c'est de la musique continue, on ne parle plus, on chante tout le temps, non seulement il y a une intrication très forte des voix solistes avec les masses chorales, c'est voulu, lors de grandes scènes collectives, vous verrez à l'acte 2 en particulier, la scène du marché, mais il y a aussi un orchestre qui est beaucoup plus éloquent parce que dans le drame lyrique, l'orchestre a son propre discours. Et donc, il a organisé, et ça, le drame lyrique, pardon, j'ai oublié de vous le dire, mais c'est quelque chose, une mode musicale qui se développe en France sous l'influence de Wagner. Et je vous ai dit qu'il était allé à Bayreuth, il s'intéressait beaucoup aux propositions de Wagner. Donc, on a une œuvre comme ça qui est mixte et qui est passionnante par la confrontation des deux esthétiques. Et c'est quelque chose qui n'a pas toujours été compris à la création. Il y a quelques personnes qui ont été choquées, mais qui s'est vraiment avéré très rapidement hyper efficace auprès de tous les publics. Hein, même s'il a fallu composer un opéra par la suite pour la diffusion internationale, c'est quand même ce qui a principalement contribué au succès de l'œuvre. Et donc c'est une œuvre qui a connu un succès à peu près immédiat, qui a été énormément jouée à Paris, en France, dans l'Empire colonial français, à l'étranger. Il en existe plein de versions dans des langues étrangères. Et puis, bah vous savez que peut-être que la 1500e a été chantée ici par Maddy Mesplet, que Nathalie Dessay a fait ses débuts ici en Lacmé en 1995. Voilà. Donc régulièrement, on a le bonheur, grâce à une interprète d'exception, de pouvoir renouer avec cette œuvre qui est passionnante d'un point de vue littéraire, passionnante d'un point de vue musical, et malheureusement un peu trop rare, mais on espère à chaque fois qu'on la donne ici, pouvoir lui rendre justice. Et là, dans la mise en scène de Laurent Pelly qui fait honneur aux rêves, qui ouvre la boîte à rêves, vous serez comblés. Et juste une petite chose, les dialogues parlés ont été réécrits par Agathe Mélinan, mais dans le respect de tout ce qui est dans les dialogues parlés originaux, mais de façon à resserrer la pièce et à vous en offrir une version un peu plus courte, sinon la soirée durerait plus de 3 heures. Et maintenant, j'ai le plaisir de laisser la parole à Cécile Baker, qui va vous parler de l'Inde.
Voilà, merci. Merci beaucoup Agnès, merci pour votre invitation et toutes ces précisions, merci pour votre enthousiasme et d'avoir rappelé à la fois cette ouverture au rêve mais aussi les babouches du Brahman, donc la source une des sources qui a permis aux trois librettrices de travailler. Alors cette source nous vient de Théodore Pavi. Théodore Pavi était un sanskritiste de haut vol, qui, à la suite d'Eugène Burnouf, un des grands spécialistes de l'orientalisme scientifique, eh bien, va occuper la chaire de sanskrit au Collège de France. Donc c'est quelqu'un de très important, c'est quelqu'un qui est plongé dans les textes, et c'est quelqu'un qui est aussi un écrivain. Il va s'intéresser à toutes sortes de choses, il va faire des voyages, et dans les babouches du Brahman, eh bien, on retrouve trois éléments, on trouve trois éléments qu'on retrouvera dans l'Acmé, à la fois un brahman vengeur, vindicatif, qui s'appelle Nilakanta, une fille éblouissante et belle, Rukmini, mais aussi un contexte extrêmement tendu entre deux communautés, une communauté chrétienne et son église et ses cloches, et puis le village des brahmanes. À partir du livret qui a été fait pour l'Acmé, eh bien, on peut tirer plusieurs choses. C'est très amusant, très, très savoureux d'explorer ce livret. Et on peut, comme l'a fait un de mes collègues, pointer toutes les petites incohérences qui existent entre la lecture que font ces librettistes de la culture indienne et pointer si ça qui ne va pas tout à fait et qui est assez amusant. Ou au contraire, et c'est mon choix, eh bien, retenir un certain nombre de motifs culturels qui ont été retenus par ces librettistes et qui, pour moi, font vraiment sens avec la culture indienne. Alors, j'en ai retenu 4, il y en a plusieurs, j'en ai retenu 4 seulement. Le thème du jardin clos, hein, le duetto de départ, Mais en, alors, je vais vous les dire les quatre, le jardin clos, l'ermitage, les bijoux, qui sont très importants, les clochettes et la figure inquiétante de Shiva. Alors, le thème du jardin clos, l'opéra s'ouvre sur l'évocation, sur la rencontre avec l'Acmé et sa servante. Elle se trouve dans un lieu isolé, au-delà du village, au-delà de la foule. Et ce jardin est décrit comme un lieu idéal qui correspond dans les épopées indiennes ou dans les drames indiens. On pense au Ramayana, on pense à Shakuntala, au lieu de l'ermitage. L'ermitage est ce lieu rêvé en Inde où la nature, les êtres, à la fois la végétation, à la fois les animaux, à la fois les êtres humains et les dieux s'accordent. C'est un lieu éblouissant de beauté, c'est un lieu qui est toujours dominé par les arbres en fleurs, les lianes odorantes, parfumées, le chant des oiseaux incessants, le lieu où les fauves s'accordent avec les antilopes et où tout le monde vit dans une paix et un murmure des prières continue. Alors ça, c'est très important. L'ermitage a donné lieu à des études extrêmement savoureuses et très profondes de la part de Charles Malamud, si ça vous amuse de poursuivre la réflexion. On doit aller très vite, les bijoux. Alors, les bijoux en Inde, il y a un mot en sanskrit qui est alamkara. Alamkara, ça veut dire l'ornement. On ne peut pas imaginer la beauté en Inde, la beauté des femmes, la beauté des hommes, la beauté du chant, la beauté de la poésie sans ornements. Alors il y a des ornements littéraires, il y a des ornements musicaux et puis il y a des ornements esthétiques pour le corps, qu'il s'agisse des parfums, des onguents et surtout de l'abondance des bijoux. Alors alamkara, ça veut dire ornement. Alamkara, c'est ce qui parfait, c'est ce qui rend complet, c'est ce qui rend apte. Donc quand on pose ces bijoux, on se trouve vraiment vraiment nu, parce qu'on est défait d'un certain nombre de ses pouvoirs. Les bijoux aussi en Inde sont porteurs de sortilèges, d'amulettes, sont associés à des amulettes, ils ont des rôles prophylactiques, et donc on ne peut imaginer vraiment une beauté sans bijoux. Et même quand on est dans le domaine de l'ascèse, eh bien on dit que l'ornement de la main, c'est le don. Vous voyez, hein, il y a des figures littéraires comme ça. Alors, je passe des bijoux aux clochettes, l'air des clochettes. Alors, les clochettes sont très, très importantes dans la culture indienne et elles peuvent avoir des significations assez différentes. Pensons aux clochettes des danseuses qui sont fixées à leurs chevilles. Donc là, il y a une dimension érotique très puissante dans ce son-là. Il y a des clochettes associées à l'univers familial, très affectif. Les clochettes que l'on noue aux chevilles des petits-enfants lorsqu'ils font leurs premiers pas et qu'ainsi on les entend dans la maisonnée, bien après Théodore Pavie, Tagore, fera des poèmes, glissera dans ses poèmes la sonorité de ces petits grelots d'enfants. Et puis, il est question vraiment de l'Acmé, les clochettes qui signalent la présence des parias, c'est le cas là. Eh bien, traditionnellement, certains villages de brahmanes ne devaient pas être approchés par des castes inférieures. Et donc, quand quelqu'un d'une caste inférieure s'approche, il signale sa présence afin que ceux qui le doivent s'éloignent de lui, afin de ne pas être touchés par son impureté. Alors, il y a un dieu qui porte des clochettes, un dieu Aset, qui est Shiva. Alors, il peut signaler sa présence. Pourquoi Shiva est-il frappé d'impureté? Eh bien, parce que Shiva est un meurtrier. Il a une dimension meurtrière. Il est aussi salvateur, bien entendu, mais il va faire une erreur, un péché terrible. Il va décapiter Brahma, la cinquième tête de Brahma. Et pour cela, il sera contraint d'errer dans les forêts avec le crâne de Brahma dans sa main qui colle un peu comme le sang de Lady Macbeth qui ne disparaît pas. Et au terme de 12 ans, eh bien, il se purifie dans le Gange et enfin délivré de cette impureté, de ce brahmanicide. Donc, Shiva porte soit une clochette comme attribut, soit, dans certaines formes, une clochette au haut de ses mollets. Et je glisse de la clochette à Shiva à Nilakanta, parce que Nilakanta est le nom du brahman vengeur, vindicatif, du père de l'acmé. Nilakanta a un caractère très inquiétant à cause de son nom, parce que Nila, c'est noir ou bleu foncé. Et c'est la couleur d'un poison qu'a bu Shiva lors du barattage de l'océan de lait. Voilà, c'est un mythe cosmogonique. L'océan primordial est baratté, en sort des joyaux, la déesse de la fortune, mais aussi un poison que Shiva va boire et il en garde des traces. Alors, Shiva est une divinité ambivalente, à la fois érotique et ascétique, à la fois dangereux et salvateur. Et je crois qu'il est temps de s'arrêter là. Et voilà, très bonne soirée. Merci.
Alors, après le spectacle, vous irez les jours prochains au musée Guimet apprécier les collections indiennes. Très bonne soirée.